Ok, prions. Seigneur, merci, merci ce matin pour la joie d'être ensemble, de partager, d'ouvrir la parole de Dieu. Et je te prie que tu remplisses ma bouche, tu remplisses nos cœurs par ton Saint-Esprit, que tu nous aides à recevoir la parole de Dieu avec foi, sans accusation, sans condamnation, avec la joie de connaître Jésus-Christ et d'être dans la communion avec notre Sauveur et notre Seigneur. Soit élevé et glorifié. Et je demande de bénir cette assemblée ici, le travail qui est fait ici, et d'encourager chaque frère, chaque sœur, ceux qui sont peut-être pas là avec nous. On pense à Jacqueline et son mari Helmut. Seigneur, on te demande de les bénir, de les garder pendant leur voyage aussi. Et toute cette assemblée qu'on te confie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez de quoi noter, vous pourrez noter quelques références. Je vous encourage à noter les références parce que j'ai beaucoup de versets, mais je vais pas pouvoir tout dire parce que sinon on n'arriverait pas à finir dans les temps. Mais on va commencer avec un verset dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 1. Et le titre du message, c'est une question, j'aime bien poser les questions. Que veux-tu? Que demandes-tu? C'est une bonne question, ça. Et vous pouvez, si vous voulez, ouvrir vos Bibles ou noter la référence et peut-être à un moment donné la lire dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 7. C'est l'histoire de Salomon qui a été appelé par Dieu pour construire le temple. Et c'est ce qu'il s'est donné les moyens de le faire grâce au travail de son père qui a précédé, David, le roi David. Et puis Dieu vient le visiter au milieu de la nuit. On voit ça dans 1 Roi chapitre 3 verset 5 et 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Demande ce que tu veux que je te donne. Bonne question, n'est-ce pas? Et j'aimerais nous encourager à considérer le fait que, imaginez que le Seigneur nous accorde un tel songe. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande, dis-moi, demande-moi. Et on parle, c'est le sujet central de notre culte ce matin, c'est sur la prière. Le fait que nous avons ce privilège de pouvoir demander à Dieu, nous adresser à Dieu, communiquer avec le Créateur. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que Salomon a demandé finalement? Vous vous rappelez ce qu'il a demandé? Il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple nombreux que Dieu lui avait confié. Et au verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, parce qu'on va demander ce qui est dans notre cœur, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Dieu veut donner. Qu'est-ce qu'on demande? Et la suite du verset, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Vous imaginez que, alors là, face à Dieu, on peut imaginer, mais imaginez que vous soyez devant, il y en a pas mal ici en Suisse, vous recevez un coup de fil, voilà, vous êtes chez vous, tranquille, vous recevez un coup de fil, et là, il y a un milliardaire qui vous appelle, et il vous invite, viens à la maison, sur le bord du lac, là, je voudrais te donner quelque chose. Et il te dit, alors tu arrives, tu ouvres le grand portail, tu t'installes dans une grande maison, tout ça, il s'assoit à côté de toi et puis il te dit, ben, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donne. Il est milliardaire. Qu'est-ce qu'on demande? Quelques milliards? Ça lui fera pas grand-chose, hein. Qu'est-ce qu'on demande? La maison? Qu'est-ce qu'on demande? C'est une question qui est arrivée à quelques personnes dans la Bible. Et peut-être vous vous rappelez cette histoire de Hérode qui a fait une fête. Et pendant cette fête, il y a sa belle-fille, Hérodias, enfin la fille de sa nouvelle femme qui danse. Et il est séduit par le charme de cette jeune femme, tellement séduit qu'il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, ne serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Et vous savez quoi ? Elle sort voir sa mère et lui dire « Mais qu'est-ce que je dois lui demander ? Qu'est-ce que je dois lui demander ?» Elle savait pas, elle avait rien dans son cœur. Elle savait pas quoi lui demander. Et c'est là que la mère va lui conseiller de demander la tête de Jean le Baptiste. Parce que ça l'a dérangé dans sa direction et dans sa manipulation et dans le pouvoir qu'elle voulait exercer sur son mari. Puisque normalement ils devaient pas être mariés ensemble. Bon, enfin, c'est un autre détail. Qu'est-ce que tu demandes? Et on voit que le cœur naturel de l'homme, il aurait tendance à demander des choses, il sait pas déjà. On sait pas toujours ce qui est bien pour nous. Et peut-être on aurait tendance plutôt, on voit qu'il y avait quand même dans le cœur de Salomon quelque chose de particulier, de demander la sagesse. Il aurait pu demander la richesse, la gloire, la longue vie, tout ce qu'on a lu. Et il demande la sagesse. Et nous, on est dans un monde où on nous demande, si on avait cette opportunité-là, on demanderait des choses matérielles. Hein, si on avait une solution pour régler les problèmes du monde, allez, plus d'argent. Je veux dire, on aurait plus d'argent, ça réglerait pas les problèmes. Ça réglerait pas la jalousie, ça réglerait pas la convoitise, ça réglerait pas les meurtres, ça réglerait pas les problèmes, plus d'argent. Ce qu'on a besoin, c'est de rencontrer le Seigneur, bien évidemment. Néhémie, vous connaissez l'histoire de Néhémie qui se retrouve devant l'empereur, je dirais. Enfin, c'était le roi qui avait un empire. Et donc, il était échanson, donc il était prêt, il était proche. C'était quand même un homme sage, un conseiller du roi. Et là, il a un fardeau pour son pays, pour sa ville, pour Jérusalem qui est détruite. Et le roi voit qu'il y a un problème. Il y a de la tristesse. Il n'avait jamais paru triste devant le roi. Et le roi lui dit en Néhémie 2.4, que demandes-tu ? Que demandes-tu ? Quelle est la réponse de Néhémie ? Je priais Dieu, je priais le Dieu des cieux. Il avait des choses dans son cœur, des choses pour son peuple, des choses pour Dieu. Mais il demande l'aide de Dieu même pour savoir quoi demander. Ça c'est l'humilité, n'est-ce pas ? C'est l'humilité. On peut parler de Esther aussi. Dans Esther, chapitre 5, verset 3, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Et on sait ce qu'elle va demander. Elle va demander de sauver son peuple. Enfin, elle va inviter le roi. Il y a toute une histoire, mais elle avait un cœur pour les autres, dirigé vers les autres. Et on a un problème, en fait. C'est qu'on sait pas trop comment demander. C'est Jacques qui rappelle ça, hein. Il dit, en Jacques chapitre 4 verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Déjà on ne demande pas, on ne prie pas. Et il dit ensuite au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, si on est honnête, on ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est Paul qui dit ça dans Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas ce qu'il convient de demander. Et on a besoin de l'aide de Dieu même pour demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, la prière. J'aimerais vous dire, la prière, c'est un sujet délicat. Vous savez pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous, et moi le premier, on est un peu court. On est bien en deçà. N'est-ce pas? On prie peu, et bien souvent on prie mal. Et quelque part, on est tous coupables dans ce domaine de nos vies. Et le danger, c'est que le malin utilise ce sentiment de culpabilité pour nous éloigner du trône de la grâce, pour nous éloigner de cette vie, de cette communion avec Dieu. Parce qu'il sait que c'est dangereux lorsqu'un croyant commence à prier. lorsqu'un croyant commence à recevoir la sagesse d'en haut pour demander et pour continuer de s'approcher, malgré le fait qu'il est imparfait, malgré le fait qu'il priera jamais comme il faut et qu'il a besoin de grâce. Parce que c'est devant un trône de grâce, auprès d'un Dieu qui nous comprend. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, hein, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, donc il sait. Et on peut s'approcher d'un trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Et le point que je voulais souligner principalement, qui à mon avis est essentiel à comprendre, c'est que, comprenons bien une chose, c'est qu'on est tous indignes de se présenter devant Dieu. Et même oser prier, même oser lui demander quoi que ce soit. Lui demander d'agir en notre faveur. On est tous indignes de ça. Et il faut qu'on s'appuie sur que c'est un fait que nous ne pouvons pas changer, qui est établi. D'accord ? On est pécheurs et on est incapable de se présenter devant Dieu. Maintenant, Dieu, lui, il a, face à cette difficulté, à ce problème, il a offert quelque chose à l'humanité, à l'homme. C'est un Dieu de grâce qui a choisi de se rendre accessible. Il a payé le prix fort pour que nous puissions avoir cet accès maintenant direct à lui. Et j'aimerais vous dire que ceux qui s'adressent à Dieu, ce sont des pécheurs sauvés par grâce. C'est eux seuls qui peuvent se présenter devant lui, être écoutés par lui, être justifiés par lui. Ce que je veux dire par là, ne laissons pas notre indignité nous empêcher de nous présenter devant Dieu. On a besoin, on prend conscience, on réalise qu'on n'a pas prié comme on aurait dû prier, peu importe, venons devant le trône de la grâce. Ne nous renfermons pas sur nous-mêmes en disant ouais, j'ai raté, donc si j'ai raté, maintenant, tant pis, c'est trop tard. Non, viens tel que tu es. C'est l'histoire dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, entre ce pharisien et ce publicain. Et ce pharisien qui pensait que lui, il était bien, il était juste, il faisait des bonnes prières, donc lui, il était bien devant Dieu. Non. Et ce publicain qui, lui, se frappait, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est comme ça qu'on se présente devant Dieu. On n'est pas en train de se flageller, on est juste conscient que c'est par grâce et c'est devant un trône de grâce qu'on peut se tenir seulement. Parce qu'on est tous pécheurs, Romains 3, 23, hein. Donc c'est dans le brisement, c'est dans l'humilité qu'on se présente devant Dieu qui est lui trois fois saint. C'est le Dieu trois fois saint, n'est-ce pas? Et un peu plus loin dans le livre des Chroniques, il est dit ceci, si vous lisez, et je vous encourage peut-être à le lire, par rapport à ce que je suis en train de dire, ça sera le message de mercredi prochain, je pense à l'église de Nîmes, dont d'ailleurs vous avez les salutations, et j'ai lu ces quelques chapitres-là, 6, notamment 5, 6. C'est quand la gloire de Dieu descend sur le temple, la présence de Dieu vient se manifester tellement que ils sont obligés, ils peuvent plus rien faire tellement la présence de Dieu les saisit. Donc la Shekinah, la gloire de Dieu descend dans le temple que Salomon vient de faire construire. Et là, Salomon va faire une prière. Et si vous lisez la liste de toutes ces situations, c'est que des gens qui ont des problèmes, qui s'approchent de lui, qui viennent le prier dans ce lieu. Et si on prie à Dieu, c'est parce qu'on a des besoins, c'est parce qu'on a des problèmes. Donc ne laissons pas nos problèmes nous empêcher, nous dire, non, ben, j'ai trop de problèmes, je peux pas prier à Dieu. Je peux pas demander, je peux pas m'adresser à Dieu. Mais bien sûr, t'as des problèmes, viens. Au contraire, t'as des problèmes, viens dans l'église. Ne reste pas en dehors de l'église. Viens, approche-toi. Et laisse Dieu faire son œuvre à travers sa parole, à travers ses promesses, à travers sa grâce dans ton cœur. Donc c'est avec contrition qu'on se tourne vers le trône de grâce. Donc le verset, oui, je voulais vous dire, dans 2 Chroniques 7, 14, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Il y a un mot là, je pardonnerai ses péchés. Et le peuple qui vient là, il a des problèmes, il échoue, il est à côté de la plaque, il est pas à la hauteur, mais il vient quand même, n'est-ce pas? Comme ce publicain. Et lui, il est retourné justifié. Parce qu'il est quand même venu malgré son indignité. Il est venu parce qu'il a accepté de humblement faire confiance à Dieu. Et je veux dire, c'est là les hommes que Dieu cherche, les hommes et les femmes que Dieu cherche. C'est ces hommes et ces femmes qui sont brisés, qui sont pécheurs, mais qui ne laissent pas leur péché les empêcher de venir. Qui ne laissent pas leur péché les éloigner de Dieu. En réalité, Dieu nous invite à venir tels que nous sommes. Matthieu 11, 28 à 30, n'est-ce pas? C'est vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. On est fatigués et chargés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? On vient à lui. Et que va-t-on demander? C'est toujours la question. Comment on vient? C'est là le secret, mes amis. Dans le psaume 40, verset 8, il est dit « Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » C'est un psaume de David. On vient avec quoi? On vient avec le livre. On vient avec la parole vivante. On vient avec Jésus-Christ comme avocat. On vient avec Jésus-Christ comme intercesseur. On vient avec le Saint-Esprit qui intercède aussi pour nous, qui est le conseiller, qui est le consolateur. Je viens. Je viens. Je viens avec humilité, je viens avec foi. Je fais quoi? Ce que le verset nous dit, je cherche sa face. J'aimerais vous dire que quelquefois, quand on est dans le besoin, et soyons honnêtes, on est tous comme ça, on est tellement omnibulé par le besoin qu'on cherche une solution au besoin. Et en grandissant dans la foi, même si peut-être c'est notre première réaction naturelle, on apprend maintenant à chercher la face de Dieu. Il y a une situation, il y a un problème, il y a une circonstance, mais je cherche d'abord la face de Dieu. Et cette situation, elle est dans ses mains. Ce problème, c'est lui qui va en prendre soin. C'est lui qui va régler ça dans mon cœur, dans ma vie. C'est lui qui va m'aider à bien penser, qui va me donner la... on va voir ce qu'on peut demander à Dieu dans les quelques minutes qui nous restent. Donc, on arrête de se lamenter sur nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde à Jésus-Christ. Ça, c'est l'humilité. On se confie dans sa parole de grâce et on veut rentrer dans l'héritage qu'il a déjà en réserve pour nous dans Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. On a un héritage à vivre. On a une vie à vivre avec le Seigneur. Et cette vie, elle est en relation, en connexion avec le Seigneur. On demande. On est des... Et on apprend à demander avec la sagesse de Dieu, et on va le voir. Alors, on va oser prier. On n'est plus centré sur notre misère, on est centré sur l'œuvre de Christ et sur ce trône de grâce et sur ce chemin qu'il nous offre. Parce que maintenant, on va être rempli des promesses de Dieu, on va être confiant dans sa nature, dans ce Dieu de grâce, de toute grâce, dans 1 Pierre 5:10. Et regardez ce que Dieu nous encourage à faire, c'est que on a tous des besoins primaires. Boire, manger, dormir, avoir un toit. Quand on n'a pas ça, on est en danger. D'accord? Là, on se tient gentiment parce qu'on a tous à peu près le ventre rempli. Mais si vous n'aviez pas mangé depuis 10 jours, peut-être que vous ne seriez pas très concentré pour m'écouter. Donc ces choses-là sont nécessaires et indispensables pour l'être humain, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Jésus nous propose dans Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je crois que Dieu... Il n'est pas hyper spirituel. Quand il enseigne un peu avant à ses disciples comment il faut prier, une des premières choses qui est dans la prière, alors la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, bien sûr, et tout de suite, c'est donne-nous notre pain quotidien. Donc, pour les choses concrètes, Dieu veut qu'on lui demande. Mais il veut qu'on aille plus loin que ça. Il veut qu'on rentre dans cette intimité, dans cette relation, dans cette confiance. Où maintenant on va demander... On va demander des choses qui vont nous élargir, qui vont nous élever, qui vont nous amener plus loin. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de devenir des grosses têtes spirituelles, hein, mais de vivre la réalité de ce monde et ses difficultés, ses souffrances, ses problèmes avec Dieu, avec les pensées de Dieu, avec les promesses de Dieu, avec la parole de Dieu, ça change. Ça commence à changer quelqu'un, n'est-ce pas ? On a besoin du pain de vie. On a besoin du pain quotidien, mais le pain de vie, c'est Jésus-Christ. On a besoin de nourrir notre âme. Et peut-être c'est pas les premières choses qu'on va demander à Dieu. N'est-ce pas? Quelquefois, on se dit, mais Dieu, est-ce qu'il va me donner des choses? Est-ce qu'il va répondre à mes prières? Et la parole de Dieu nous encourage que quand on demande, Dieu donne. Hein, Matthieu 7:7, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, quiconque. Attends. Non, le juste, celui qui fait bien, celui qui fait bien ses prières, celui qui réussit, lui, s'il demande, tu vas lui donner. Non, quiconque demande. C'est-à-dire que celui qui a raté, alors je suis pas en train de dire, péchons allègrement et puis demandons tout à Dieu. Ça marche pas comme ça, vous le savez très bien. C'est, quand j'ai péché, Seigneur, je suis désolé. J'ai besoin de toi. Interviens. On se repent, on confesse et on vient devant le trône de grâce et on demande, Seigneur, je suis pas digne que tu répondes à ma prière. Je suis pas digne, voilà. Mais voilà, je sais qu'il y a ton fils a fait la paix avec moi. Le Saint-Esprit est là. Mes émotions peut-être sont à l'ouest complet, mais par la foi je demande dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu a donné, n'est-ce pas? Et quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Romains 8, 32, il dit, celui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré, pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous pensez que Dieu qui nous a donné son fils, maintenant il va dire, ouais, je t'ai déjà donné mon fils, ça suffit, tu exagères pas. Ça suffit. Nous, on pense comme ça parce qu'on est limité, mais un Dieu infini, plein de grâce et d'amour, tu penses qu'il va dire, non, je t'ai déjà trop donné, maintenant c'est bon. Dieu veut nous donner, mais au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, la Bible dit. D'accord? Au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais qu'est-ce qu'il veut nous donner? Et qu'est-ce qu'on va demander? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que je peux me faire confiance à moi-même, savoir ce dont j'ai besoin? Si vous lisez Romains chapitre 7, vous verrez qu'on ne sait pas. On ne sait pas trop ce qu'on veut. On n'arrive pas à faire le bien qu'on veut, on fait même le mal qu'on ne veut pas. Notre cœur est tordu et malade, on ne sait pas quoi demander. Si on n'a pas été touché par Dieu, si on n'a pas été nourri par les pensées de Dieu, on ne sait pas. Que demander. Alors peut-être la première chose qu'on pourrait demander à Dieu, c'est la sagesse. C'est ce que Salomon a fait, n'est-ce pas? C'est Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Peut-être, Seigneur, je ne sais pas comment te prier. Je ne sais pas comment... quoi demander? Comment demander? Donne-moi ta sagesse, aide-moi, donne-moi ta compréhension de ta parole, de tes promesses, de qui tu es. Et Dieu donne cette sagesse et nous aide pour nous aider à savoir comment prier, quoi demander dans nos prières. Pour que, quelque part, il y ait un peu plus de Christ et un peu moins de moi. Jean chapitre 3 verset 30. Deuxième chose qu'on peut demander, être rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Éphésiens 5 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu désire, c'est la volonté de Dieu et c'est ce que vous vous rappelez, Élisée a demandé à Élie. Rappelez? Et dit qu'est-ce que tu demandes? Dans 2 Rois chapitre 2 verset 9, il dit demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais c'est pas difficile pour Dieu. N'est-ce pas, Luc chapitre 11, verset 13 ? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Demandez-le l'aide du Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il faut demander. Parce que je ne sais pas prier. Parce que mes demandes sont insensées. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ton esprit. Et je vais conclure. Il y a encore peut-être d'autres choses à dire, mais on arrive au terme du temps imparti. Dans Luc chapitre 18, verset 41, c'est cet aveugle qui demande à Jésus qui crie à Jésus, qui passe, vous savez, à Jéricho, il dit, aie pitié de moi. Et Jésus s'approche, il dit, que veux-tu que je fasse ? Il est aveugle. Que veux-tu que je fasse ? Mais ça paraît évident. Oui, mais dis-le. Reconnaissons que nous sommes aveugles. Que veux-tu que je fasse ? Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que l'œil est la lampe du corps. Et si l'œil est en bon état, le corps ira bien. Mais souvent, nos yeux sont en mauvais état. On ne voit pas comme il faut. Donc, Seigneur, aide-moi à voir. Aide-moi à comprendre quelle est ta volonté. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Je termine. Si je vous demande, à votre avis, qu'est-ce qui est le mieux, la volonté de Dieu ou votre volonté ? Vous allez tous me répondre, la volonté de Dieu. Moi, je vais vous le dire aussi. La Bible nous le dit aussi. Mais tous les jours, on lutte, n'est-ce pas ? C'est la volonté de Dieu qui est meilleure, mais quand même, la mienne, elle est pas mal non plus. Finalement, la mienne, elle est peut-être même mieux. Je sais qu'elle est moins bonne, mais... Voilà. Et notre Seigneur Jésus, lui, il est venu sur la terre pas pour faire sa volonté. Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 26, 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous imaginez si on arrive à se présenter devant Dieu et à prier comme ça ? À prier pour que ce soit plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. Et c'est là que Dieu nous amène, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est pas là que Dieu nous amène ? Peut-être que nous amène comme c'est arrivé à Paul. Après sa conversion, qu'est-ce que Paul va dire ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et Paul va illustrer ça, toute sa vie. Où il n'a pas cherché à faire sa volonté, mais il a cherché à faire la volonté de Dieu. Ben nous, c'est exactement ça. Et Dieu nous a donné la prière pour nous dire, demande-moi la sagesse, demande-moi mon esprit, demande-moi mon aide, apprends, demande-moi de t'aider à apprendre à prier, à me demander, pas les choses pour satisfaire tes passions et tes convoitises, ou rassurer ton insécurité, les choses éternelles. Jean chapitre 15, verset 16, je conclurai avec ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce qu'on peut demander un fruit éternel pour la gloire de Dieu ? J'aimerais vous dire que la mission que André et sa famille ont, avec d'autres frères et sœurs américains, ont fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là, on voit que on voit le besoin, on peut imaginer, mais il y a eu tout au long, et je peux imaginer encore des difficultés. Il y a eu un moment donné, entre la volonté naturelle et la volonté de Dieu, il y a eu des batailles. Mais quand on accepte de soumettre notre volonté dans la prière à Dieu, pour demander que sa volonté se fasse dans nos cœurs, à travers nos vies, et que on n'est plus juste centré pour des choses. On a des besoins et on les fait connaître à Dieu, bien évidemment, mais pour des choses éternelles, pour le salut des âmes, pour le salut de nos proches, dans nos familles, pour le salut de gens qu'on ne connaît pas à l'autre bout du monde, pour ce qui se passe au Maroc en ce moment, et on veut prier pour ce peuple, qu'il y a un témoignage et que Dieu vienne rencontrer les cœurs brisés et amener la lumière. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce que je vais demander? Oh, juste que je sois plus riche, oh, juste que je sois en meilleure santé, ou juste que voilà, j'ai plus mal. Ok, mais après, qu'est-ce que tu vas demander? Que la gloire de Dieu soit manifestée dans ton cœur, et que cette lumière commence à se manifester et qu'il y ait un fruit dans ta vie. Pas pour s'élever, mais pour voir des âmes sauvées, pour voir des frères et sœurs édifiés, pour voir des jeunes gens sauvés de ce que ce monde leur propose, et trouver le chemin du salut. Il y a tellement de choses à demander à Dieu, des choses éternelles. Investissons dans les choses éternelles, mes amis. Que notre cœur et notre trésor soient dans les choses éternelles. Apprenons à prier. Apprenons à prier, apprenons à demander, apprenons à croire Dieu. Et on va découvrir qu'il y a un Dieu qui est là et qui va nous surprendre, comment il est capable de répondre à nos prières. Et qu'il y a un fruit qui demeure dans nos vies. Un fruit qui demeure dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir ton assemblée. Et je te demande, en particulier pour chacun ici, pour moi-même aussi, que tu nous apprennes à prier et à savoir quoi demander, Seigneur. À être précis dans nos requêtes, dans nos demandes. À croire Dieu pour des miracles, pour des saluts, pour des conversions. À croire Dieu pour des témoignages puissants, Seigneur. À croire Dieu pour une œuvre spirituelle dans les cœurs. S'il te plaît, Seigneur. Dans le nôtre, et puis dans ceux de nos frères et sœurs, et puis dans ceux qui ne te connaissent pas encore. Et peut-être une des prières que tu nous demandes de faire, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, c'est de prier pour des ouvriers dans ta moisson. On te demande des disciples, on te demande de rajouter à cette assemblée, on te demande des hommes et des femmes qui vont arrêter de jouer à ce que ce monde nous propose de consommation, et qui vont devenir des disciples, qui vont connaître le cœur de Dieu, qui vont apprendre à demander, qui vont apprendre à être des bénédictions pour leur nation, pour leurs voisins, pour leur famille, pour leur église. Et c'est ce que je te demande de faire dans nos cœurs, dans nos vies, apprendre à dépendre de toi. Et je te demande pardon, Seigneur, parce que je fais partie du lot de ceux qui ne prient pas, qui ne demandent pas, qui sont centrés sur leurs petits besoins. Et je te demande d'ouvrir les yeux de mon cœur pour voir ce Papa de gloire qui a tant de choses à nous offrir, des choses éternelles, et qu'on rentre dans ce que tu as préparé pour nous, dans les œuvres préparées d'avance, dans le nom de Christ. Amen.